Bonjour, je suis Olivier, bienvenue dans le podcast de Nightmare Tree. Aujourd'hui, je vais résumer et critiquer le livre. Publié en 1976, Éloge de la fuite est un essai de Henri Laborie, médecin, biologiste et penseur français connu notamment pour ses travaux sur les comportements et les mécanismes de stress. Le livre propose une lecture du comportement humain qui relie les fonctions du système nerveux aux réalités sociales, politiques et culturelles. Laborie ne traite pas la fuite comme une simple lâcheté ou un abandon. Il la présente plutôt comme une réponse possible face aux situations de contrainte, de rivalité et de domination qui empêchent un individu de satisfaire ses besoins ou de préserver son équilibre. Son propos traverse des questions telles que le plaisir, le travail, les rapports hiérarchiques, la liberté, la violence et le rôle de l'imagination, en associant vulgarisation biologique, réflexion philosophique et critique sociale. Il cherche à montrer que la connaissance des déterminismes peut modifier la manière de vivre avec eux. Cet essai demeure marqué par son époque et par certaines hypothèses discutables, mais sa méthode interdisciplinaire conserve une force de provocation intellectuelle. Je vais vous présenter les points clés de ce livre. Premièrement, le maintien de la structure vivante comme point de départ des conduites. Laborie fonde son analyse sur une idée biologique simple: tout organisme tend à maintenir son organisation et son équilibre. Les conduites humaines ne relèvent donc pas seulement de principes moraux, de choix rationnels ou de convictions déclarées. Elles répondent aussi à des besoins de conservation, de sécurité et de gratification. Le système nerveux enregistre les expériences associées au plaisir ou au déplaisir, puis oriente les comportements vers ce qui paraît favorable au maintien de la personne. Cette perspective permet à Laborie de déplacer le regard porté sur de nombreux jugements sociaux. Un comportement jugé égoïste, ambitieux, soumis ou agressif peut être interrogé comme une stratégie acquise dans un environnement donné, plutôt que comme un trait moral isolé. Le livre insiste également sur le poids de l'apprentissage précoce. Les règles familiales, scolaires et sociales se fixent dans les habitudes de pensée et de réaction, souvent sans que le sujet en ait une conscience claire. Cette approche est déterministe, mais elle ne se réduit pas à un fatalisme passif. Pour Laborie, comprendre les mécanismes qui conditionnent une conduite constitue déjà une marge de manœuvre. La connaissance ne supprime pas les contraintes biologiques et sociales, mais elle rend leurs effets plus visibles et permet de rechercher des réponses moins destructrices. Deuxièmement, dominance, hiérarchie et compétition dans les organisations sociales. Une part centrale de l'éloge de la fuite concerne les rapports de dominance. Laborie observe que les groupes humains organisent fréquemment la distribution des ressources, des statuts et du pouvoir selon des hiérarchies. Il ne réduit pas ces hiérarchies à une pure donnée naturelle, mais il analyse leur efficacité en lien avec des dispositions biologiques et avec les apprentissages sociaux. Dans un ordre hiérarchique, chacun est incité à obtenir ou à conserver des gratifications matérielles et symboliques. La compétition devient alors une manière ordinaire de régler les conflits, même lorsqu'elle produit frustration et souffrance chez ceux qui disposent de peu de pouvoir. Laborie étend cette critique au travail, aux institutions et aux discours qui présentent la réussite sociale comme la preuve automatique du mérite individuel. Son argument ne consiste pas à nier toute coopération. Il vise plutôt les systèmes qui transforment la dépendance et la soumission en nécessité normale, puis justifie cette normalité par des valeurs abstraites. Il se montre sceptique envers les révolutions qui remplaceraient une élite par une autre, sans modifier les mécanismes de dominance. Cette méfiance explique la portée politique singulière du livre. Il ne propose pas un programme institutionnel détaillé, mais invite à examiner comment les structures collectives orientent les désirs, limitent les choix et reproduisent les inégalités. Troisièmement, inhibition de action. Stress durable et impasse comportementale. Le concept de inhibition de action donne au livre sa dimension la plus directement liée aux recherches de Laborie. Une personne peut être placée dans une situation aversive sans pouvoir ni combattre efficacement, ni se soustraire au problème. Lorsque les réponses habituelles sont bloquées, le système nerveux demeure mobilisé sans issue pratique. Laborie associe cette impasse à un état de tension durable, susceptible de contribuer au stress et à des troubles psychosomatiques. Il faut lire cette proposition dans son contexte historique et ne pas en faire une explication unique de toutes les maladies. Son intérêt reste cependant considérable, elle met en évidence le coût subjectif des environnements où les individus doivent obéir, supporter une menace ou poursuivre des objectifs qu'ils ne contrôlent pas, le travail subordonné. Les relations de pouvoir et les normes sociales peuvent alors devenir des sources de blocage, non parce que toute règle serait pathogène, mais parce que certaines situations retirent les possibilités de réponse. Laborie distingue cette inhibition de la simple absence de mouvement. Elle désigne une action empêchée, alors que le besoin de protection ou de changement demeure actif. Cette analyse conduit à une question pratique: comment identifier les cadres de vie qui enferment une personne dans une tension répétée? et comment créer des moyens de retrouver une capacité réelle de choix, de retrait ou de création. Quatrièmement, la fuite comme stratégie de préservation plutôt que renoncement, le titre du livre prend un sens précis dans cette théorie des comportements. La fuite ne signifie pas nécessairement le refus de voir la réalité, ni une capitulation morale. Elle peut être une conduite de préservation lorsque la lutte ne fait que renforcer le danger, la soumission ou la rivalité. Laborie conteste ainsi le prestige social accordé au combat permanent. Dans une culture qui valorise la conquête, la carrière et la victoire sur autrui, se retirer peut être interprété comme un échec. Or, pour un organisme confronté à une situation nocive, éviter une confrontation sans issue peut être la réponse la plus adaptée. Cette position comporte une tension importante. Une fuite matérielle est inégalement accessible, quitter un emploi, changer de lieu ou refuser certaines contraintes dépend de ressources sociales et économiques. Laborie en est conscient dans sa critique des privilèges, même si son essai ne résout pas pleinement cette difficulté. Sa proposition la plus forte est donc moins un appel à abandonner le monde qu'une critique de la participation automatique au jeu de dominance. Il invite à ne pas confondre dignité et exposition inutile au conflit. La fuite devient féconde lorsqu'elle préserve les capacités de penser, de créer et de construire des relations moins réglées par la compétition. Elle vise un déplacement des conditions de vie, non une simple disparition. En dernier lieu, imagination, déterminisme et possibilité de formes nouvelles de liberté, pour Laborie, imagination possède une fonction décisive. Elle permet de combiner des connaissances, des souvenirs et des expériences afin de concevoir des réponses qui ne répètent pas immédiatement les modèles imposés. Cette capacité ne constitue pas une liberté absolue située hors du corps, de l'histoire et du milieu social. Le livre défend au contraire une vision largement déterministe. Les conduites sont façonnées par le patrimoine biologique, les apprentissages et les contraintes du contexte. Mais le déterminisme devient moins paralysant quand il est reconnu. Comprendre les mécanismes qui dirigent les habitudes peut ouvrir la possibilité de les déplacer et de produire de nouvelles combinaisons. Dans cette perspective, la liberté désigne moins un pouvoir souverain de choisir sans cause qu'une augmentation de la lucidité et de la capacité créatrice. Art, recherche, pensée critique et invention de modes de relations différents peuvent fournir des espaces où la logique de dominance perd une part de son emprise. Cette valorisation de l'imagination distingue Laborie de lecture purement mécaniste du comportement. Son analyse reste parfois tranchante et généralise volontiers à partir de modèles biologiques. Toutefois, elle propose une articulation originale entre contrainte et création. Les individus ne se libèrent pas en niant leur conditionnement, mais en les étudiant assez pour imaginer des organisations et des pratiques qui ne les reconduisent pas aveuglément. En conclusion, Éloge de la fuite convient aux lecteurs intéressés par les croisements entre biologie du comportement, philosophie sociale et critique des hiérarchies. Il peut particulièrement nourrir celles et ceux qui cherchent à comprendre le stress, la compétition au travail, les mécanismes de soumission ou la difficulté de sortir de conduites répétitives. Son bénéfice principal est intellectuel. Laborie oblige à envisager les idées de liberté, de mérite et de responsabilité à partir des conditions matérielles, nerveuses et sociales dans lesquelles elles prennent forme. Il fournit moins des solutions prêtes à appliquer qu'une grille de questionnement exigeante face à une situation de conflit. Le lecteur est invité à distinguer ce qui relève d'une action possible, d'une lutte qui reproduit la dominance, et d'un retrait susceptible de préserver ses capacités de création. Le livre se distingue des essais de développement personnel par son refus de faire de la volonté individuelle une explication suffisante. Il se distingue aussi des essais politiques classiques par son effort pour rapporter les institutions aux comportements et aux besoins des organismes vivants. Cette ambition transversale est sa singularité comme sa limite. Certaines formulations biologisantes et certaines généralisations doivent être replacées dans le contexte scientifique des années 1970 et confrontées aux connaissances actuelles. Malgré cela, la force du texte demeure dans son regard non conformiste sur la fuite, non comme passivité, mais comme possibilité de rompre avec des systèmes qui épuisent, hiérarchisent et empêchent imagination. Si vous souhaitez soutenir Henri Laborie, vous pouvez acheter le livre via le lien Amazon que j'ai fourni dans la description du podcast. Après avoir lu le livre, faites-moi savoir ce que vous en pensez et partagez vos réflexions. À bientôt.